Qu'est-ce que la bénédiction de Dieu et qu'est-ce qui la distingue des richesses matérielles? Parce qu'il est difficile de comprendre la bénédiction de Dieu si l'on ne peut pas établir la différence avec la richesse matérielle, avec l'abondance matérielle. Et ça c'est un problème pour le christianisme aujourd'hui, et c'est même un problème pour le monde. Ce sont deux notions, la notion de richesse matérielle et même de bénédiction de Dieu. Dans certains cas même, ce sont deux notions qui s'opposent. Parce que quand Jésus vivait encore, il avait certaines façons de parler. Au grand étonnement de ses disciples, voici ce qu'il dit. Il a dit, parce que là, en ce temps-là, on croyait que lorsque quelqu'un était riche, il était absolu, c'était parce qu'il était béni par Dieu. Mais voilà Jésus qui dit, il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. L'apôtre Paul, pour sa part, recommande quelque part, il dit aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. D'abord, quand le Seigneur a commencé même sa prédication, dans le livre de Matthieu, il y a un passage qu'on appelle les Béatitudes. Il parle là-bas, dans ce passage, des gens bénis. Et regardez ce que le Seigneur cite comme bénis. Il parle des pauvres en esprit, comme des gens bénis. Bénis soient les affligés. Il parle des débonnaires. Il parle de ceux qui ont faim et soif de la justice. Il parle des miséricordieux. Il parle de ceux qui ont le cœur pur, de ceux qui procurent la paix et ceux qui sont persécutés dans la justice. Quand on regarde les enseignements du Seigneur Jésus, il ne mentionne jamais la position ou la richesse, la santé même, ou le bonheur lié aux possessions matérielles et à l'état physique comme étant des bénédictions. D'abord, lui-même ne possédait pas grand-chose, n'est-ce pas? Il ne possédait rien. Cependant, moi je dis qu'il est le béni avec le grand B. Quelqu'un peut-il dire ici que je n'étais pas béni? Il est l'exemple d'une personne bénie. Lui-même ne possédait pas de fortune personnelle, mais il était béni. Comment? Lui-même dit quelque part, par la bouche de l'apôtre Paul, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans la bénédiction de donner, il ne s'agit pas de la prospérité matérielle, mais d'une joie intérieure, d'une paix que Dieu donne. Lorsque nous imitons son sacrifice envers les autres, il a donné sa vie pour nous. Qu'est-ce donc que la bénédiction de Dieu? Je me suis permis une définition. Nous définissons la bénédiction de Dieu comme une faveur, un avantage conféré par Dieu et qui procure plaisir et bonheur, qui donne la joie comme David l'a dit. Une vie bénie donc est caractérisée moins par l'abondance des biens matériels que par ce que j'appelle un peu la quiétude, c'est-à-dire l'absence d'inquiétude. On regarde une personne bénie est beaucoup plus caractérisée par cette quiétude, cette absence d'inquiétude. Je décris la vie bénie. La bénédiction, c'est une croissance. Ça permet de croître dans quelque chose. Mais dans quoi? Dans ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. La croissance soutenue dans l'amour, dans la joie, dans la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Vous comprenez déjà que la véritable bénédiction de Dieu ne peut être produite que par le Saint-Esprit. Tout ce que j'ai cité là, c'est le fruit de l'Esprit. Donc, bien aimé, je ne cherche jamais de personnes bénies en dehors de ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Allez me dire n'importe quoi, je n'y crois pas. Il est important de retenir déjà que la bénédiction de Dieu est une faveur qu'il confère aux bénéficiaires. Vous savez, une faveur n'est pas une contrepartie d'un travail ou d'un effort donné. Parce que quand on reçoit un salaire qu'on a mérité, on peut avoir la joie d'avoir ce salaire en main là, mais ça ne durera pas. Dans mon pays, on ne dit même pas qu'on perçoit le salaire. Dans le pays, on dit qu'on touche.
le salaire. Donc quand l'argent vient et entre tes mains, toi tu touches, le temps que tu touches, et puis c'est parti aussi. Vous voyez, si nous vivons seulement la sueur de notre front, nous ne pouvons vraiment pas jouir du bonheur que Dieu réserve à ses enfants. Quel que soit ce que nous gagnons, en argent ou en nature, en réalité, bien-aimé, dans cette vie, j'ai constaté une chose, chaque médaille a son revers. C'est qu'on ne regarde pas, on ne voit pas souvent les deux côtés. Les choses de ce monde-là, chaque médaille a son revers. Ce n'est qu'en Dieu que tu n'as que parfait. L'expérience même de la vie ne nous apprend-elle pas que la vie d'un homme et même d'une collectivité ne dépend pas de ses biens? Jésus lui-même l'a dit, fut-il dans l'abondance, comme nous le dit notre Seigneur. Bien-aimé, en réalité, même sans connaître de quelle faveur ni comment l'obtenir, tous les hommes, je dis bien tous les hommes sans exception, et c'est ça qui me donne l'espoir, malgré la laïcité dont on parle, je sais que tous les hommes, sans exception, parce que l'homme est corps, âme et esprit, désire bénéficier de ce type de bénédiction, même sans pouvoir complètement le définir. C'est là au fond du cœur. Et je sais qu'à un moment donné, souvent Dieu révèle ça dans le cœur des gens. Voilà aussi pourquoi ceux que j'appelle souvent les vendeurs d'illusions prospèrent. Peut-être qu'en Afrique, nous parlerons des sorciers, mais vous avez les horoscopes ici. Tous ceux qui racontent la bonne aventure, là, ils prospèrent. Parce qu'au fond de lui-même, l'homme sait que s'il ne vit que de ce qu'il garde, de ce qu'il travaille, que s'il ne vit qu'à la sueur de son front, le bonheur ne peut pas venir de là. Un bonheur stable ne peut pas venir de là. Ce n'est qu'une faveur de Dieu. Certains, je sais, par d'autres, par beaucoup de moyens, on peut obtenir beaucoup de choses. Mais la Bible le dit dans Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est pour ça que je vous ai dit, en réalité, tout sur cette terre a son revers. Les bénédictions que vous voyez là, quelqu'un a beaucoup de choses devant, mais il y a toujours un revers. Quand ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Seule la bénédiction de Dieu n'a pas de revers. Sur cette terre, il arrive même que les richesses conservées par un homme fassent plutôt son malheur. C'est le sage Salomon qui le dit. Pour ceux qui ont déjà un certain âge comme moi, on sait ça. C'est très vrai ce que la parole dit. Donc, je voudrais d'abord que nous, chrétiens, nous retenions quelque chose. La pauvreté matérielle d'une personne ne constitue pas toujours une évidence de l'absence de bénédiction de Dieu. Amen. C'est ça. La richesse matérielle d'une personne ne constitue pas non plus une preuve absolue qu'il bénéficie de cette faveur, comme tant à le faire croire une partie de la chrétienté qui se répand dans le monde aujourd'hui. C'est faux. La richesse matérielle n'est pas absolument un signe de bénédiction de Dieu. Nous devons rechercher plutôt la bénédiction de Dieu et non la richesse ou l'élévation. Regardez, nous sommes dans un pays riche. Les pays de l'abondance, l'Europe ou les États-Unis, on ne parle plus tellement de pauvreté matérielle. Mais, en plus de la mort, on s'inquiète de beaucoup de choses dont nous en Afrique, on ne pensait même pas. On s'inquiète du réchauffement climatique. On s'inquiète de la migration. On s'inquiète du terrorisme, de la religion, de la croissance de la population, on s'inquiète même de la nourriture qu'on mange, on s'inquiète quand les prix augmentent sur le marché, on s'inquiète que peut-être d'un moment à l'autre, un fou va lancer une bombe nucléaire. Quelle est l'importance de la bénédiction divine? C'est elle qui enrichit et rend réellement joyeux. Le sage Salomon dit encore ceci. Si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Vous voyez, tu as beau travailler. Tu te lèves matin. Tu ne dors pas, tu dors à minuit. Mais Dieu dit que si tu peux jouir du bien-être au milieu de ton travail, c'est encore un don de Dieu. Ici, là,
Dieu parle de sa bénédiction, de la réjouissance. Une réjouissance que rien ne peut bloquer. Je dis, un peu d'expérience de la vie ne nous apprend-il pas que la richesse et la santé, voire la vie, peuvent disparaître instantanément? Nous avons fait 10 000 kilomètres, près de 10 heures de vol. Mais l'avion pouvait bien tomber. Et ça serait fini. Même si j'avais une fortune dans la banque, je n'en jurerais pas. Il suffit de suivre un peu les informations à la radio, à la télévision. Un seul jour pour savoir que tout peut arriver à n'importe qui sur cette terre. Le facteur déterminant dans tout ce que nous faisons est en réalité la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu nous fait voir sa gloire et nous amène à le craindre. Le Seigneur raconte une histoire quand il vivait encore sur cette terre, au milieu de ses apôtres. Il était au bord de la mer, ses apôtres étaient là. Ils n'avaient pas pris quelque chose depuis. Et c'est Pierre même qui lui dit, son apôtre, l'apôtre qui aimait beaucoup parler, il dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, vous voyez. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, parce que Jésus a parlé, je jetterai le filet. Et lorsqu'il a jeté le filet, ils ont ramassé le poisson en grande quantité. Et lorsque Pierre a vu ça, la Bible dit qu'il s'est jeté à genoux devant Jésus. Il a dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Donc la bénédiction de Dieu nous fait voir sa gloire et nous amène à le craindre. Quand la bénédiction vient vraiment de Dieu, ça fait voir sa gloire. Ça fait voir sa gloire. La bénédiction de Dieu nous amène à lui faire confiance dans la satisfaction de nos besoins. Elle pousse également l'enfant de Dieu qui en bénéficie à la sanctification. C'est-à-dire à avoir ce désir de se mettre à part pour lui. C'est ce que ça produit, ça n'éloigne pas de Dieu. Même lorsque cette bénédiction prend la forme matérielle, elle ne pousse pas le bénéficiaire à s'attacher à ce matériel-là au détriment du Seigneur. Si vous voyez un cas comme ça, ce n'est pas Dieu. Sa bénédiction te pousse. Il y a quelque chose qui est frappant dans la bénédiction. Quand tu te bénis matériellement, plus ton cœur te détache même du matériel. C'est ce que moi j'ai constaté. C'est-à-dire plus il te bénit matériellement, plus ton cœur même se détache du matériel. Dans l'histoire que j'ai racontée là, lorsqu'ils sont rentrés avec ces poissons, quand on lit la suite, on se rend compte qu'ils ont laissé. Ils ont laissé. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris une chose. Le problème de matériel n'est plus un problème pour moi. Et c'est bien ce que le Seigneur disait. Ne vous inquiétez de rien. C'est pour ça que j'ai parlé de la bénédiction. La bénédiction enlève l'inquiétude de la vie. Vous voyez ici, ils ont tout laissé. Donc, parfois je vois, peut-être vous n'avez pas dit ça ici, des chrétiens, parfois des serviteurs de Dieu qui, devant l'église, se vantent de leur possession matérielle. Ils se vantent parfois des prix de leurs chaussures. J'ai dit, si peut-être vous faites ça pour encourager les gens à travailler et gagner, peut-être oui. Mais on ne peut se glorifier de quoi que ce soit que l'on sait avoir reçu de Dieu. Et la Bible dit, dans le livre de Corinthiens, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Bien-aimé, pour parler de ces bénédictions de Dieu, nous sommes venus pour le mariage d'un de nos fils, Christian. Christian était né avec un grand handicap. C'était une montagne devant nous. Ça ne pouvait pas bouger. Mais Dieu, nous étions déjà, par sa grâce, ses enfants. Nous avons regardé dans toutes les directions. Les médecins au Cameroun ne pouvaient rien. L'enfant est même parti en France, rien. Au contraire, la chose s'était tellement aggravée qu'au niveau de notre pays, personne ne pouvait même. Les médecins refusaient de le toucher. Nous avons crié à Dieu et je ne vais pas entrer dans les détails. Toujours est-il qu'il y a un médecin américain qui est arrivé au Cameroun. Il a vu ce cas. On nous a dit, le type de médecin sans frontières là,
mais c'était un groupe de chrétiens. Il a examiné, là, il ne pense pas qu'il y ait quelqu'un au Cameroun qui puisse faire quoi que ce soit. Il va partir avec la photo de notre fils. Il est justement venu aux États-Unis et ça a mis des années, au moins 2 ans. Finalement, il nous a recontacté, il nous a dit qu'on pouvait prendre en charge l'enfant. Nous n'avions pas un seul franc. Mais je vous dis, Dieu a fait quelque chose. Il a mobilisé une compagnie américaine. Il a mobilisé Air France. Ils ont payé le billet. Bref, quand je calcule tout ce qui a été dépensé, c'est plus de 20 millions CFA, c'est-à-dire 40 000 dollars. Nous n'avions dépensé aucun franc. Dieu a mobilisé, comme il a dit, je peux faire venir les trésors des nations pour vous. Nous n'avons pas dépensé un seul franc. Quand cet enfant est rentré des États-Unis, j'ai dit, Seigneur, comme c'est les Américains que tu as utilisés pour notre enfant, je te le redonne pour qu'il te serve aux États-Unis. Et c'est pour lui, cet enfant-là, que nous sommes venus pour son mariage. Il a épousé une Américaine. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que Dieu avait béni, vous voyez, même l'enfant, ce n'était plus un attachement. Et lorsque nous avons même dit, lorsque j'ai même fait cette prière, nous ne sommes pas des gens riches. La bénédiction de Dieu se pousse à avoir confiance. Christian a bien pu faire ses études ici, et le voilà marié. Nous croyons qu'il va bien, d'abord il l'enseigne déjà comme moi. Il va bien servir aux États-Unis. Qui a financé tout ça? Je ne n'ose pas vous le dire. Je veux simplement vous dire que quand la bénédiction vient de Dieu, ça nous pousse à avoir confiance, à nous mettre à part. Parce que cet acte, enfin, le frère a donné un témoignage. Parce que tout ce que nous avions, nous, à partir de là, j'ai dit Dieu, finalement rien n'était impossible. Tu es un Dieu de provision. Et tout ce qui nous mettait en main, on a lancé ça sur le peuple de Dieu. Alors que lui-même s'occupait de nos affaires. Donc c'est ça que la bénédiction de Dieu, même quand c'est matériel, c'est ça que ça produit. Ça ne produira jamais l'égoïsme et l'orgueil. Jamais. La bénédiction de Dieu fait reculer nos limites. Vous savez, dans ce monde, quand je parle de limites avec l'homme, c'est-à-dire que c'est qu'une impossibilité. C'est peut-être un nombre qu'on ne peut pas dépasser, un chiffre ou une quantité qu'on ne peut pas dépasser. C'est peut-être une ligne que tu ne peux pas traverser. C'est une contrainte, c'est ce que j'appelle limite, que tu ne peux pas lever. Quelque chose sur laquelle, quel que soit ce que tu fais, tu vas bloquer dessus. Pour nous, effectivement, il y avait plusieurs limites. Par exemple, le fils. Cette limite peut être extérieure. Donc, vous comprenez d'emblée que dès que l'homme naît sur cette terre, il est entouré de limites. À peine est-il né qu'il y a la fatigue, qu'il y a les maladies et surtout la mort. Et la mort fait que les hommes sont prisonniers. Et l'homme béni de Dieu ne pense plus à la mort. Vous pouvez me croire ou pas, ça ne lui dit plus rien. La mission que Dieu a donnée à l'Église, il l'a donnée à ces hommes qui ont des limites. Mais la question que toute personne qui veut servir Dieu se pose, c'est avec ces limites-là, comment vais-je servir Dieu? Est-ce que ces limites peuvent être levées? Moi, je suis ici pour vous dire oui. Amen. Chez nous, on répond. Je vais vous conduire à répondre souvent. Donc, Dieu a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Je vous prie, mes frères, lorsque ces bénédictions de Dieu sont venues, toute limite était partie de ma tête. Me voici aux États-Unis. Ce n'est pas, il n'y a aucun mérite dessus. C'est juste que lorsque Dieu bénit, t'a fait sauter les limites. Je vous dis donc que il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas à une personne. Ce n'est pas à des personnes particulières. C'est à toi, c'est à moi. Et je vous assure ce matin que quand Dieu le dit, ce n'est plus à des hommes normaux, entre guillemets. C'est parce qu'il a enlevé les limites.
Il peut te conduire n'importe où. Regardez bien. J'ai dit, quel que soit devant l'individu ou devant une collectivité, quelle qu'elle soit, la lecture de la Bible me permet d'affirmer que nos limites peuvent être étendues ou reculées, quelles qu'elles soient. C'est même une certitude. À l'instant T où tu dis à Jésus, viens dans ma vie, je crois en toi, je te remets ma vie, à cet instant-là même, les limites sont reculées. Ce n'est pas de la théorie. Parce que la principale limite dans la vie de l'homme, c'est le péché. C'est le péché qui constitue la limite, qui bloque tout. La limite là, c'est ça. Lorsque le péché est enlevé, qu'est-ce qui t'empêche de monter haut? Il n'y a plus rien, n'est-ce pas? Que vous soyez une personne, ou une communauté, ou une famille, en réalité, il n'y a plus rien. Quelqu'un comme Jabez dans la Bible connaissait ça. La Bible dit qu'il a invoqué le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, vous voyez bien, si tu me bénis et tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, la Bible dit, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Toi qui as donné de ta vie au Seigneur, je t'en prie, enlève les limites devant ta tête, dans son service, quand tu veux le servir. La bénédiction de Dieu fait entrer automatiquement dans un processus de multiplication lorsqu'on se met à travailler pour lui. Moi, j'ai l'habitude de préciser toujours ça. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Non. Quand tu te mets à travailler pour Dieu, la bénédiction est telle que le processus de multiplication se déclenche. Donc, la question de capacité qu'on a au départ ne compte pas. Quelles que soient les capacités qu'on a au départ, l'entrée de la vie éternelle par l'Esprit de Dieu qui entre dans le cœur d'un homme ne peut que provoquer la multiplication. La présence de Dieu est un facteur de multiplication. Il faut que les chrétiens le sachent. Vous savez, la mort n'interrompt pas ce processus. Dieu a donné l'intelligence et il dit, celui qui manque de sagesse, il fait quoi? Il demande. Il demande à Dieu. Et nous le voyons, la sagesse peut lui demander. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance qu'il agit. Quand c'est Dieu qui agit en toi, il peut avoir une limite devant lui? Il n'y en a pas, bien-aimé. Il n'y en a pas. Moi, je suis déjà à 62 ans. Peut-être un peu moins que mon frère. Mais j'ai rêvé encore de très grandes choses. Parce qu'il n'y a pas de limite. La bénédiction de Dieu lève nos limites en termes de ressources matérielles aussi bien que financières. Ça lève ça. Dieu est celui qui possède tout ce qui est sur cette terre, matériel comme financier. L'or et l'argent m'appartiennent, la parole le dit. Et même sa puissance créatrice, il met même sa puissance créatrice à notre disposition lorsque nous nous engageons à le servir. C'est ça la seule condition. Tu t'engages à servir Dieu, il t'ouvre tout. Nous avons vu la multiplication du pain. C'était dans le cours du service. Dans le cours du service de Dieu, beaucoup de choses se passent. Mais Moïse, voici ce qu'il avait dit à Moïse. La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Il s'agissait de nourrir une foule, de lui donner la viande. Mais même si tu dans ton service, tu es buté à quelque chose comme ça, dans le service de Dieu, il lèvera la limite. C'est tout à fait normal. Nous qui sommes chrétiens, nous sommes en guerre. Nous sommes une armée dans un pays d'occupation. Lorsque un président envoie une armée en guerre sans lui donner, envoie une armée en guerre sans lui donner les moyens de gagner cette guerre, que direz-vous d'un tel président? N'est-ce pas en temps de guerre, véritable guerre, on prend même à ceux qui sont restés pour donner à ceux qui sont au front? C'est ce que Dieu fait. Ose t'engager dans l'armée victorieuse du Seigneur Jésus et tu verras que tes ressources sont en réalité illimitées. Le problème, c'est que nous ne bougeons pas. Nous ne sommes pas actifs pour lui. Il faut oser le faire. Et nous verrons que nos ressources sont illimitées.
La Bible dit, par la bouche de Paul,
« Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. » Donc, bien-aimé, permettez que je définisse la pauvreté pour moi.
Parce qu'on parle, surtout dans nos pays, il y a des gens qui pleurent, on pleure beaucoup, on parle beaucoup de la pauvreté. Vous m'entendrez rarement utiliser ce mot-là.
Pour le chrétien, j'ai défini la pauvreté matérielle comme un état dans lequel ses ressources sont insuffisantes pour lui assurer le nécessaire pour assumer les tâches que Dieu lui a confiées dans sa maison.
Ce n'est pas pour aller faire ses Java. C'est une expression, c'est nous pour dire, pour faire tout ce que tu veux.
C'est la pauvreté, c'est si, dans ton désir de servir Dieu, si, connaissant la tâche que Dieu t'a confiée, tu n'as pas les moyens matériels de faire ça, et que ça te conduit même à murmurer, à t'inquiéter chaque jour du manger et du boire et de l'habillement. Si tu vis dans cette situation, il y a bien des raisons, il y a quelque chose qui ne va pas en tant que chrétien. Parce que Dieu dit qu'il assure le manger et le boire à ses enfants. Et parfois, par rapport à ce qu'il te demande de faire à un moment donné, le manger, le boire et s'habiller suffit. C'est pour ça qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des plaintes au milieu du peuple de Dieu. Ne vous trompez pas. Je viens de vous dire la bénédiction en réalité de Dieu. Ça peut être le matériel, mais ce n'est vraiment pas ça. Avant de poursuivre, permettez-moi de vous dire que le cri de nos cœurs en tant qu'hommes, « Bénis-moi aussi mon Père » rencontre le désir du Père de bénir. Je crois que tous les pères ici sont d'accord avec moi. Les pères désirent du bien de leurs enfants. Voici ce que Dieu, notre Père, dit. Il dit, « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasierai du miel du rocher. » Donc, bien-aimé, si tu as une vie qui te fait murmurer, qui tu as une vie, tu crois que tu n'es pas béni, je voudrais te dire que la seule barrière possible à ce désir de Dieu de te bénir, c'est la vie que tu mènes en tant que son enfant. Maintenant, quels sont, je veux que tu suives donc attentivement ce que je vais dire, quels sont les moyens et les conditions de bénédiction de Dieu? Lorsque nous parcourons la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, on voit que la bénédiction de Dieu dans notre vie est conditionnée par notre attitude par rapport à Dieu lui-même, par rapport à son œuvre et la qualité de nos relations, des relations que nous entretenons avec le prochain. Je crois que ça doit vous rappeler le résumé de Jésus avec les 10 commandements. Il a résumé ça en deux. D'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et d'aimer son prochain comme toi-même. Donc en réalité, c'est la mise en œuvre, pour être simple, de ces deux commandements dans notre vie. Comment est-ce que ces commandements agissent dans notre vie? C'est ça. Pourquoi? Parce que Dieu bénit directement ou indirectement au travers des hommes. Il faut que vous compreniez ça. Au travers des hommes. Comment est-ce qu'il bénit au travers des hommes? En exaucant les prières et des paroles de bénédiction que les hommes prononcent les uns envers les autres. Mais il faut que nous comprenions que quand Dieu exauce, Dieu ne va pas donner un serpent à quelqu'un. Il ne faut pas donner à quelqu'un ce qu'il sait qu'il va le tuer. Il exauce selon les principes de sa parole. Toujours. L'homme prononce une parole de bénédiction ou prie pour quelqu'un d'autre et Dieu, selon son désir, le désir de l'homme qui a béni, il accomplit. Je vais parcourir quelques exemples. Le premier que je prends, c'est le père bénit l'enfant. Nous avons l'histoire dans Genèse 27, verset 1, 4. Nous venons de lire ça. Isaac avait deux enfants. Vous voyez, Jacob, lui, il aimait rester auprès de maman, alors que Esaü restait auprès du père. Parce que Esaü restait auprès du père, il connaissait même le goût du père, ce qui lui plaisait. Et lorsque le père a pensé à sa mort, il ressent la nécessité de bénir un de ses enfants avant ce jour. Et il choisit qui? Il a choisi Esaü. Pourquoi a-t-il choisi Ésaü? Parce qu'il faisait ce qui lui plaisait. Rester auprès de lui et faire son plaisir. Un père normal, c'est-à-dire qui aime ses enfants, fait tout pour les rendre heureux pendant sa vie. Et quand il sent la mort venir, il pense à sa progéniture et désire pour elle tout le bien possible après lui. Mais Dieu, que Jésus nous rappelle, nous révèle comme un père, lui, il ne meurt pas. Dans ce désir de bénir, je vous l'ai dit, est permanent. C'est même ardent en Dieu. Cependant, combien parmi nous, nous aimons rester près de Dieu? Combien parmi nous faisons-nous cette prière secrète dont Jésus avait parlé? Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Combien parmi nous cherchent à connaître ce qui plaît à Dieu? Comment pouvons-nous lui plaire si nous ne lisons pas sa parole? Puisque ce qui lui plaît est dans ça. Il nous a dit, voilà, vous trouvez là-dedans ce qui me plaît. Faites-le! Et moi, je vous étendrai sur vous ma bénédiction. Comment pouvons-nous plaire à Dieu si nous ne lisons pas la parole? Si nous ne sommes pas réguliers à l'église pour l'écouter et connaître ce qui lui plaît? Nous y appliquer. Nous disons souvent qu'il n'y a pas de temps. S'il vous plaît, changeons avant que cela ne soit tard. Même les serviteurs peuvent bénir leur maître. Nous avons des exemples dans la Bible. Les présidents, les patrons, ils ont besoin. Et tout le monde a besoin d'un serviteur, d'être béni. Moi qui vous parle, je vais souvent dans les missions. Généralement, les gens veulent toujours que je leur donne. Mais il y a de temps en temps des personnes qui prennent juste peut-être un morceau de cola. Cola chez nous, c'est quelque chose de très simple. On peut même payer ça à 1 cent pour parler dollars. Il prend ça, il vient, il me donne. Vous voyez, je suis tellement satisfait. Je n'ai rien fait pour gagner. Donc, Dieu agit, même le serviteur, donc, même l'inférieur peut bénir le supérieur et Dieu agit en sa faveur. Un bon chef, un bon patron, un bon père ou une bonne maman est béni par ses serviteurs ou ses enfants. Une bonne épouse est bénie par son mari et un bon mari par sa femme. C'est-à-dire quand ton mari ou ta femme prononce des paroles parce que tu lui as fait du bien, ça marche. Le peuple bénit l'un des siens. Lorsque tu as un bon comportement au milieu du peuple, et un exemple très clair se trouve dans le Nouveau Testament, avec un centurion romain, c'est le peuple qui criait, viens, 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 il fait du bien à notre peuple. Donc lorsque tu es au milieu de la société, un homme bien, qui fait du bien, qui s'occupe des autres, ils vont prononcer des paroles de bénédiction. Un serviteur de Dieu bénit quelqu'un qui l'a hébergé. L'hospitalité que nous exerçons entraîne aussi la bénédiction de Dieu. Nous avons vu avec le prophète Élie qui a béni la femme. Il a simplement dit la farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. J'ai dit la bénédiction n'est pas une question d'abondance physique. La femme n'avait qu'une seule cruche, mais elle ne désemplissait pas. Il y avait toujours de quoi les nourrir, elle, son fils et le serviteur de Dieu. En réalité, dans la prière quotidienne, qu'est-ce que Dieu dit? Nous, il donne notre pain quotidien. Mais à cause de l'environnement que nous avons, nous voulons accumuler. Dieu peut nous permettre d'accumuler. Mais en réalité, dans sa pensée, c'est vraiment au jour le jour. Et c'est ce qu'il a fait dans l'exemple de cette femme. Et la bénédiction de Dieu amène la piété selon le contentement, avec le contentement. Parce que tu sais que Dieu pourvoit chaque jour. Il est dit dans la Bible que les chrétiens d'une certaine région, c'est la Macédoine, ils étaient dans beaucoup de tribulations. Et ils étaient éprouvés. La Bible dit que leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Vous voyez? Ils étaient non seulement éprouvés, mais pauvreté profonde, mais cette pauvreté profonde, ça a produit plutôt des riches libéralités. Parce que leur vie avait attiré cette bénédiction de Dieu qui donne la quiétude. En ce qui concerne l'hospitalité, la Bible nous dit qu'Abraham, comme il exerçait l'hospitalité, il avait hébergé les anges. Il était toujours prêt, disposé à venir au secours des autres et surtout des personnes défavorisées. Dieu bénit une telle attitude. Je me demande aujourd'hui combien d'entre nous aurions raté la bénédiction d'Abraham. C'est vrai, nous sommes en ville avec nos maisons serrées et on a souvent des inquiétudes avec des budgets qui sont sous nos regards. J'ai dit, lorsque tu es en Christ, enlève les yeux sur tout ça. Un serviteur de Dieu peut prononcer les paroles de bénédiction sur le peuple. Moïse devait construire le tabernacle de Dieu. Il a donné des instructions qu'il avait reçues de Dieu à son peuple, à ceux qui devaient travailler. Lorsque ceux-là ont fini de travailler, la Bible dit, Moïse a prononcé une parole de bénédiction. Même un ennemi, ton ennemi peut te bénir. Quand Saül poursuivait David, à un moment donné, David a posé un geste et voici ce que dit Saül. Il dit, sois béni, mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. Et David a bien réussi dans ses entreprises. Il a été béni comme ça par un ennemi. Tu peux être béni par ton frère ou ta sœur. Jacob, il avait volé les bénédictions de ses Esaü qui pleuraient. Mais à un moment donné, c'était les enfants des mêmes pères, ils se sont bien croisés. Et qu'est-ce que Jacob a fait? Il a fait des dons à Esaü. Il s'est humilié. Esaü a accepté son pardon. Et Jacob l'a béni. Combat le mal par le bien, comme nous le conseille le Seigneur. Recherche l'humilité dans ta vie de tous les jours. Et surtout au milieu du peuple de Dieu, n'aie pas une trop haute opinion de toi-même. Préoccupe-toi aussi de l'intérêt des autres. Et tes frères et tes sœurs vont prononcer, même dans les lieux secrets, des paroles de bénédiction en ta faveur. Et Dieu va accomplir cela. Dieu lui-même bénit directement. Je sais que les voies de bénédiction de Dieu, beaucoup d'entre nous connaissons ça. Dieu bénit celui ou celle qui obéit à sa voix. Nous avons un exemple, l'exemple d'Abraham. Nous avons l'exemple de la pêche miraculeuse de Pierre. Quand il a parlé, Pierre a obéi et les bénédictions sont venues. Dieu bénit celui qui prend soin de sa maison. S'occuper de la maison de Dieu ou de son œuvre est une voie de bénédiction de Dieu. Je vous assure. Sa maison est l'assemblée locale comme celle-ci, mais c'est aussi le corps de Christ. Je vous ai dit que la bénédiction, ce n'était pas quelque chose de matériel. Dans la Bible, dans l'histoire de David, on est venu mettre l'arche de l'Éternel dans la maison d'un homme. C'était Obed-Edom. Il prenait soin de l'arche de l'Éternel. Et puis, quelques temps après, on est venu dire à David qu'il est même béni. David était un roi. Avec des soldats. Avec des serviteurs. Avec beaucoup de biens. Et même s'il n'en avait pas, il pouvait prendre à quelqu'un. Mais David a dit d'aller chercher l'arche. Vous comprenez bien, David, ce n'était pas la bénédiction matérielle qu'il cherchait. Il savait que c'est la bénédiction de Dieu. C'est ce dont l'homme, normalement, a besoin. Ce n'est pas les histoires des biens matériels. La Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Bon, je sais que la notion de dîmes, certaines posent des problèmes dans certaines assemblées. Mais ce que je dis simplement, étant sur cette terre, nous avons des structures à gérer. Même si c'est physiquement, ça ne peut pas nous préoccuper. Nous devons être préoccupés quand nous regardons l'église qui est dans un certain état. Ça devait nous préoccuper si peut-être le loyer n'est pas payé. Voilà pourquoi un chrétien normal ne peut pas rester comme ça et ne pas donner pour que la maison de Dieu, l'église locale, pour que ça marche. Dieu bénit ceux qui veillent chaque jour à ses portes et qui gardent les poteaux. Vous voyez même déjà toutes ces fonctions-là. Tu te mets à la porte, là, tu gardes ses portes. Tu es un ancien, tu surveilles. Tu veilles pour que les fausses doctrines n'entrent pas.
Dieu dit, tu es en train de veiller et il bénit.
Ce genre de choses. Donc soyons prompts à servir dans la maison de Dieu, à quelque poste que ce soit. Peu importe. Même si tu es en train d'essuyer le WC, la salle d'eau, fais-le fidèlement. À quelque poste, diacre, protocole, membre de la chorale, responsable des finances, responsable des jeunes, des femmes, des jeunes filles, le servir selon ses directives. C'est pour ça qu'il dit, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes. Il ne s'agit pas de faire les choses comme nous voulons. Il faut que qu'on soit d'accord. Nous faisons les choses selon ses prescriptions. C'est sa maison, ce n'est pas la nôtre. Bien-aimé, dans mon expérience de vie de plus de 30 ans, je pense que beaucoup ici nous témoigneront ça, Dieu est la personne la plus reconnaissante que j'ai jamais connue. Tu ne perdras jamais en servant Dieu sur cette terre. Tu ne perdras jamais. Vous savez, Dieu, il aime les actions de grâce. Il aime la reconnaissance. Sachez qu'il est reconnaissant à ceux qui le servent jour et nuit, parfois dans le secret. Il l'est. Vous avez dans Agée, Dieu dit d'apporter, de s'occuper de sa maison physiquement, d'y apporter du bois, de bâtir sa maison. Et il aura de la joie, il sera glorifié. Dieu bénit celui ou celle qui obéit à ses parents. C'est même dans l'un des commandements. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur cette terre. Bien-aimé, dans l'évolution de ce monde, la génération qui vient est toujours moins obéissante aux parents que celle qui la précédait. C'est vrai, c'est une évolution que Dieu avait prophétisé. C'est Satan qui trompe les hommes pour les priver d'une bénédiction qu'on peut avoir aussi simplement. Parce que normalement, obéir aux parents, c'est naturel. Mais même cette bénédiction, l'ennemi réussit à couper ça. En rendant les enfants désobéissants par rapport à leurs parents. S'il vous plaît, ne suivez pas ça. Sauvez-vous, jeunes, de cette génération perverse. Ne suivez pas le vent de ce siècle qui pousse les jeunes à la révolte contre les aînés et principalement contre les parents. Vous avez une histoire dans la Bible, les Récabites, qui ont obéi aux instructions de leurs parents, même après leur mort. Et regardez la bénédiction que Dieu donne. Il dit que vous ne manquerez jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Vous voyez encore que ce n'est pas le matériel. Parce que tout compte fait, j'ai déjà dit aux gens que tu es conçu, que tu es fait n'importe quoi. Pour moi, devant l'éternité, tout ce qui est physique devient zéro. Dieu fait prospérer celui qui ou celle qui a sa crainte. Parce que les sages-femmes avaient de la crainte de Dieu, Dieu a fait prospérer les sages-femmes du temps de Moïse. Dieu a fait prospérer leur maison. Donc, je suis en train d'exclure ici les chrétiens qui font fi, qui s'en fichent des commandements de Dieu, avec le prétexte que nous sommes dans la grâce. Mensonge. La grâce de Dieu délivre notre volonté de la domination du péché. La grâce de Dieu nous donne le pouvoir de résister au péché, donc de vivre dans la sainteté et la pureté dans ce monde. Écoutez ce que dit Paul. Dans 2 Corinthiens 1, 12, il dit, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté, pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Ce qui fait leur gloire, ce n'est pas les bâtiments comme celui-ci, ce n'est pas les voyages, ce n'est pas la capacité de prêcher. Vous voyez bien. C'est la sainteté, pureté. C'est encore le fruit de l'esprit. Voilà ce qui faisait la gloire de nos premiers frères. Voilà ce genre de bénédiction transperce les ténèbres des âmes des hommes. Ce n'est pas physiquement que ça s'est transpercé. C'est cette vie-là. Parce que ça éclaircit notre vie comme le miroir de cette ampoule. Ça blanchit. Et le Saint-Esprit qui est dedans, sa lumière, ça sort. Ça sort suffisamment fort pour transpercer les ténèbres de ceux qui vivent avec nous. Et ils, ils feront la remarque plus tard. Vivez, recherchez la bénédiction de Dieu et non l'élévation. Pour conclure, la véritable bénédiction, c'est-à-dire celle qui vient de Dieu directement ou indirectement, est attirée. C'est attiré par la vie que nous menons. Tu peux mener devant Dieu et devant les hommes une vie bénie par Dieu sur cette terre. La bénédiction de Dieu, c'est accessible à tous les hommes, sans exception de personne. Il n'y a pas de personnes particulières qui sont spécialisées pour donner les bénédictions aux gens. C'est faux. Dieu a disposé, vous voyez, j'ai cité plusieurs voies. Si vous lisiez la Bible, vous verrez. Il y a plusieurs voies. Si tu ne peux pas accéder à une voie, il y a l'autre que tu peux prendre pour être béni par Dieu. Le chrétien qui désire la bénédiction de Dieu et non celle du monde doit cesser de répondre à tous ces appels divers, par-ci, par-là. Il doit s'arrêter juste de temps en temps pour se demander, est-ce que la vie que je mène, est-ce que ça attire les bénédictions de Dieu? Et cette vie que vous menez, vous l'examinez au regard des relations avec Dieu et au regard des relations avec le prochain. Bénir quelqu'un, je le dis encore, ce n'est pas un dieu de mots ou bien de cérémonies qu'on organise. Parce que certaines cérémonies, pour moi, parfois ça donne froid au dos. Ça ressemble plutôt à des séances de prestidigitation que nous organisons souvent dans nos assemblées. Alors que la bénédiction de Dieu, elle est proche. Elle n'est pas loin. Pour le plus petit des enfants de Dieu. Les déclarations, qu'on appelle souvent déclarations prophétiques, ou prier ointe, ou avec onction d'huile, pour que cela soit, s'il vous plaît, ne vous trompez pas. Si c'était comme ça, ce serait trop. Enfin, je ne sais pas si je dois dire, ce serait trop simple. Évitez ça. La bénédiction de Dieu est à votre portée. Nous devons prier les uns pour les autres, pour mener une vie qui plaise à Dieu. Parce que même les hommes, c'est quand ils sont bénis, c'est quand ils approuvent quelque chose que tu fais, qu'ils t'élèvent devant Dieu et ça marche. C'est pas comme ça. Vivre une vie bénie est enfin une question de foi et surtout de choix. Je vous dis, c'est un choix qu'il faut faire de vivre une vie bénie. Et cet enseignement nous est donné pour que nous changions et menions une vie qui nous attire des bénédictions. Parce que pour être béni, je l'ai dit, on doit plaire à celui dont on désire la bénédiction. Que ce soit celle de l'homme, celle d'un groupe d'hommes ou celle de Dieu. Pour Dieu, lui plaire, c'est quoi? C'est obéir à sa voix. Jean 1, Jean 3, 22. Quoi que soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Si tu crois ce matin que tu as écouté sa voix en entendant ce message, s'il te plaît, décide dans ton cœur d'obéir. Dieu désire nous bénir tous. N'oublions pas, c'est un Dieu qui aime donner et qui donne sans mesure. Il brûle de nous bénir, mais seulement allons-nous écouter sa voix. Voici ce qu'a dit un serviteur de Dieu. Connaissant toutes ces choses, cela devrait être aujourd'hui notre désir de vivre en sorte que Dieu ne doive pas nous retirer sa bénédiction. Éloignons de notre vie, de notre chemin, tout ce qui pourrait y faire obstacle. Il ne nous privera de rien de bon temps que nous présenterons les circonstances requises. Nous n'avons pas, pour beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas fourni à Dieu la base sur laquelle sa bénédiction puisse reposer. Amen. Nous avons terminé. Est-ce que nous pouvons quand même nous lever un peu, si vous pouvez m'aider? Que tout le monde se lève. Je prie simplement que chacun dans son cœur réponde. S'il croit que Dieu l'a interpellé. J'ai dit, si tu vis une situation qui te fait murmurer contre Dieu, ça ne peut pas être normal. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Médite ta parole et demande à Dieu ce qui ne va pas. Mais si maintenant tu as pris cette décision de mener une vie, dis-le à Dieu et prie qu'il t'aide à marcher dans cette vie-là. Nous baissons la tête et chacun prie dans son cœur, tout simplement.
Seigneur éternel Dieu, merci parce que tu es notre Père. Tu brûles de nous bénir. Oh, je prie, Seigneur notre Dieu, que tu ouvres notre intelligence. Que par ton Saint-Esprit, tu aides chaque personne ici, chacun de tes enfants ici, à saisir cette opportunité pour vivre maintenant sous ta bénédiction. S'il y a des gens ici qui ne te connaissent pas, Seigneur, ouvre leurs yeux pour qu'ils comprennent que ta bénédiction seule enrichit. Que Seigneur notre Dieu, tu ne bénis que celui qui a trouvé en toi son refuge. Père, je prie pour cette assemblée, gracieuse de merci Seigneur, parce que tu multiplies. Merci parce qu'ils œuvrent pour toi, Seigneur. Ils abandonnent ces lieux de confort pour aller en Afrique proclamer ta parole. Bénis ceux qui pourvoient, bénis ceux qui s'en vont, éternel. Enlève toutes les limites, repousse les limites. Seigneur, ce n'est pas le nombre qui est important pour toi. Nous avons dit que tu multiplies, qu'il n'y a pas de limite, qu'il n'y ait pas de limite devant cette assemblée. Dans son expansion, que ce soit hors des États-Unis, que ce soit à l'intérieur des États-Unis. Seigneur, bénis les pasteurs, bénis les dirigeants, bénis chaque chrétien qui œuvre dans quelque domaine que ce soit, Seigneur notre Dieu. Bénis chaque chrétien qui, dans son lieu secret, t'élève cette assemblée, t'élève les dirigeants, t'élève les membres de l'assemblée. Merci notre Dieu, parce que tu es notre Dieu et que tu veux nous bénir et que tu nous béniras. Au nom de Jésus-Christ. Amen.